Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Bonsoir à tous, il est 20h30 à Tunis et à Niamey. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, au Nigeria, les rebelles des Vengeurs du Delta du Niger ont annoncé la fin du cessez-le-feu. Fermeture de 14 établissements privés de santé au Niger. En Syrie, le groupe État islamique perd Deir ez-Zor, sa dernière grande ville. Donald Trump a commencé sa première tournée dans 5 pays asiatiques. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Au Nigeria, le groupe Les Vengeurs du Delta du Niger a déclaré qu'il a mis fin au cessez-le-feu dans la région du sud-est, riche en pétrole. Le point avec Yakuba Ouédraogo.
Le cessez-le-feu dans le Delta du Niger est officiellement terminé, a déclaré le groupe Vengeurs du Delta du Niger sur son site web. Les militants veulent une plus grande part des richesses pétrolières dans le sud-est du Nigeria. Nous pouvons vous assurer qu'à chaque installation dans notre région, vous sentirez la chaleur de la colère des Vengeurs du Delta du Niger, menace ce groupe. Après avoir mené des attaques récurrentes dans le sud-est du pays, les Vengeurs du Delta du Niger avaient annoncé la fin des hostilités en août 2016. Les attaques contre les installations pétrolières dans le delta du Niger ont fait chuter la production du pétrole à près d'un million de barils par jour, contre 2,2 millions initialement. Le Nigeria s'appuie sur les ventes de pétrole brut pour 2/3 des recettes de l'État et la plupart de ses devises.
Toujours au Nigeria, Sambo Dasuki, un ancien conseiller à la sécurité nationale, a nié lors de son procès avoir détourné 400 millions de naira, des fonds destinés à la lutte contre le groupe djihadiste Boko Haram. Une partie de cette somme aurait financé la campagne électorale de l'ex-président Goodluck Jonathan en 2015. Suite à sa condamnation en France, Théodorin Obiang, le vice-président de la Guinée équatoriale, a fait appel. Le fils du président, Théodoro Obiang Nguema, avait été condamné fin octobre à 3 ans de prison avec sursis et 30 millions d'euros d'amende à l'issue du premier procès dit des biens mal acquis devant la justice française, qui avait également ordonné la confiscation de l'ensemble des biens saisis. La Cour suprême du Libéria décidera lundi si le second tour de l'élection présidentielle se tiendra comme prévu le lendemain. La date du 7 novembre semble difficilement tenable puisque dans l'attente de la décision de la Cour, les préparatifs du scrutin, dont l'acheminement des bulletins de vote et des urnes, sont suspendus. Au Niger, une nouvelle commission électorale nationale indépendante a été installée à Niamey pour la présidentielle de 2021. Le président Mahamadou Issoufou a déjà annoncé qu'il ne se porterait pas candidat. Et puis toujours au Niger, le gouvernement a ordonné la fermeture de 14 établissements privés de santé, qualifiant la situation d'alarmante. Le point avec Michel Joseph.
Idi Iliassou, ministre de la Santé, a expliqué que ces sanctions extrêmes ont été prises après des mois de contrôle dans des cliniques, cabinets de soins, pharmacies et maternités du pays, principalement à Niamey. Il a précisé que la réglementation, la législation et les procédures d'ouverture de ces établissements ne sont pas respectées. M. Iliassou a ajouté que de ces inspections, il découle 36 notifications, dont 14 fermetures immédiates et 22 mises en demeure. Le ministre a également déploré les tarifications anarchiques dans certaines cliniques privées et les pharmacies. En attendant les nouveaux tarifs, il a sommé les propriétaires des cliniques à désormais afficher clairement leurs prix pour que les patients puissent en prendre connaissance à l'avance. D'après le ministre, pour escroquer les malades, des cliniques et laboratoires prescrivent des faux examens très coûteux, souvent abusifs et de qualité douteuse. En janvier, le ministre de la Santé avait déjà fermé une importante clinique et ses deux annexes qui pratiquaient depuis des années à Niamey sans aucune autorisation.
En Libye, un ingénieur allemand employé par Siemens et 3 ressortissants turcs qui participaient à la construction d'une centrale électrique dans le sud du pays sont portés disparus dans la région d'Oubari. Ils ont disparu sur la route menant de l'aéroport à la centrale électrique. Les États-Unis ont annoncé avoir mené 2 frappes en Somalie contre le groupe État islamique, faisant plusieurs morts. AFRICOM, le commandement américain pour l'Afrique, précise que c'est la première fois que les USA frappent le groupe djihadiste en Somalie. En Tunisie, des centaines de policiers ont manifesté pour réclamer l'adoption d'un projet de loi très controversé visant à protéger les forces de sécurité. Toutefois, pour plusieurs ONG, ce projet de loi menace les libertés d'expression et de manifestation et crée une immunité spéciale pour les agents. D'ailleurs, l'instance de l'audiovisuel tunisien s'inquiète d'un possible recul de la liberté d'expression au sein des médias publics, citant des ingérences du gouvernement. Le président de la Haute Autorité indépendante de la communication audiovisuelle, Nouri Ladjmi, déplore que la télévision donne la parole à des gens d'un seul parti, et ce, à quelques mois des élections municipales prévues en mars. Les services secrets sud-africains ont exigé le retrait d'un livre qui dénonce la corruption au sein du gouvernement du président Jacob Zuma. La maison d'édition Tafelberg a reçu une lettre de l'agence de sécurité de l'État qui menace de saisir la justice. Et puis au Zimbabwe, une citoyenne américaine a été arrêtée pour avoir comparé dans un tweet le président du pays, Robert Mugabe, à un lutin dont la femme et le fils ont acheté une Rolls-Royce.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité dans le monde, nous l'apprenons à l'instant, l'Espagne lance un mandat d'arrêt européen contre le président catalan destitué, Carl Puigdemont. Et ce candidat, Carl Puigdemont, a annoncé être disposé à être candidat aux élections du 21 décembre. Le président américain a commencé aujourd'hui une longue tournée en Asie, la première depuis son élection il y a un an. Cette tournée intervient dans un climat de forte tension avec la Corée du Nord. Les précisions de John Linden.
Donald Trump se rendra dans 5 pays, Japon, Corée du Sud, Chine, Vietnam et Philippines. Avant son départ, il a déclaré que ce voyage sera couronné des succès. Nous allons parler d'échanges commerciaux et nous allons parler, bien sûr, de la Corée du Nord. Il y a beaucoup de bonne volonté sur ce dossier, a-t-il ajouté. M. Trump a annoncé qu'il resterait finalement un jour de plus qu'initialement prévu aux Philippines pour participer au sommet de l'Asie orientale, prévu le 14 novembre. L'un des objectifs de ce déplacement le plus long d'un président américain dans la région depuis un quart de siècle est de renforcer la détermination pour isoler le régime nord-coréen. Le ton que le président américain va adopter avec son homologue chinois Xi Jinping, tout juste reconduit pour 5 ans à la tête du pays le plus peuplé du monde, sera scruté avec attention. Après avoir promis en campagne de s'attaquer avec force à l'excédent commercial chinois, Trump a jusqu'ici fait preuve d'une relative prudence dans ce domaine.
Les forces irakiennes ont repris un important poste frontière reliant l'Irak et à la Syrie. L'étau se resserre sur le groupe État islamique qui perd de plus en plus de terrain. Les précisions d'Anastasie Tudiech.
Cette avancée intervient au moment où les forces irakiennes progressent dans Al-Qaïm, dernière poche djihadiste en Irak. Selon un officier irakien, les djihadistes avaient déserté le poste frontière en direction de la Syrie. Toujours selon lui, plusieurs d'entre eux ont été tués par ses troupes. Cette percée intervient après la reprise par l'armée syrienne de Deir ez-Zor en Syrie. En 2014, le groupe État islamique s'était emparé, après une offensive fulgurante, de près d'un tiers du territoire irakien et d'une partie de la Syrie. Depuis, les troupes irakiennes, appuyées par des unités paramilitaires et surtout par les frappes aériennes de la coalition menée par les États-Unis, ont repris 95% de ces zones. Il ne leur reste plus que les environs d'Al-Qaïm, le long de la frontière avec la Syrie, notamment la localité de Rawa voisine, à reprendre pour reconquérir les derniers pans de territoire du califat autoproclamé d'Abou Bakr al-Baghdadi.
La procureure de la Cour pénale internationale va demander l'autorisation d'ouvrir une enquête sur les crimes de guerre présumés commis dans le cadre du conflit en Afghanistan. Crimes de guerre présumés commis notamment par l'armée américaine. Ce serait la première fois que les forces militaires des États-Unis pourraient être exposées à des poursuites de la CPI. Et puis en Italie, des millions de pastilles d'une drogue synthétique d'une valeur d'environ 50 millions d'euros ont été saisies dans le cadre d'un trafic présumé du groupe État islamique. La police financière et les douanes ont saisi plus de 24 millions de ces pastilles, selon un communiqué officiel, des pastilles que l'on appelle la drogue du combattant. Ces 24 millions de pastilles ont été saisies dans le port de Gioia Tauro, en Calabre, dans le sud de l'Italie. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et sur voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Blanche Sanou.
La Côte d'Ivoire a inauguré le plus grand barrage hydroélectrique de l'Afrique de l'Ouest dans la commune de Soubré. D'un coût total de 331 milliards de francs CFA, les travaux de ce barrage ont duré 50 mois et offrent une capacité de 275 MW. Il permettra de relever le niveau de l'hydroélectricité, de rééquilibrer le mix énergétique et de faire face à l'évolution croissante de la consommation nationale à moindre coût. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, s'est dit fier et heureux de la réalisation de ce barrage qui était inscrit dans son programme. Le gouvernement mauritanien a fixé le budget de l'État à 518,4 milliards d'ougiya, soit 1,44 milliard de dollars US pour l'année 2018. Ce qui représente une augmentation de 6,4% par rapport à l'année précédente. Cette progression est due notamment à une amélioration des performances de l'économie mauritanienne, selon le ministre de l'Économie et des Finances, Mokhtar Ould-Diaye, au cours d'une conférence de presse. En Éthiopie, 231 millions de dollars des recettes ont été réalisées grâce à des sociétés locales et internationales engagées dans l'exportation de métaux précieux sur une période d'un an. Selon les précisions de Bacha Fayi, directeur des relations publiques du ministère des Mines et du Gaz, les recettes étaient inférieures à l'objectif fixé pour l'année, en raison notamment de la baisse du prix de l'or.
Maintenant, la page sport, présentée ce soir par Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Alors nous ouvrons avec le Tour du Faso en cyclisme bien sûr.
La 8e étape, Bobo Dioulasso d'Edougou, remportée par l'Allemand Benjamin Stoder. Il franchit en premier la ligne au sprint. Le Marocain Salah Eddine Mraouni reprend le maillot jaune de leader. D'Edougou, Koudougou, c'est demain la 9e étape au programme pour les coureurs de ce Tour du Faso 2017.
Foot, J-1 avant la finale retour de la Ligue africaine des champions.
Le Wydad Casablanca entrevoit sa deuxième Ligue des champions après 92, avant d'affronter demain au stade Mohamed V Al Ahly qui avait été accroché à l'aller en Égypte un but partout. Derrière les rouges et blancs, c'est tout un pays qui espère un trophée qui lui échappe depuis 1999 et le sacre du Raja Casablanca, le rival du Wydad. Un score nul et vierge permettrait aux Casablancais de remporter ce titre. Les près de 46 000 billets du stade ont tous trouvé preneur. Parmi eux, 1000 supporters égyptiens qui sont attendus dans une ambiance qui s'annonce très chaude. 10 000 policiers sont mobilisés pour l'occasion.
Quelques résultats de l'Europa League en Europe.
Tenu en échec par l'Étoile Rouge de Belgrade, Arsenal a tout de même validé son billet pour les 16e de finale de cette Europa League 0-0. Dans l'autre match du groupe, Cologne a battu le Bate Borisov 5-2. Le Milan AC est resté muet sur la pelouse de l'AEK Athènes 0-0. Dans l'autre match du groupe, l'Austria de Vienne a facilement dominé Rijeka 4-1. Everton battu à Lyon 3-0. Et puis Marseille qui s'est incliné sur la pelouse de Guimarães au Portugal. L'événement de la soirée a bien évidemment été l'expulsion de Patrice Evra avant la rencontre.
Patrice Evra connaîtra son sort le 10 novembre prochain.
Et oui, l'UEFA qui doit rendre sa décision disciplinaire concernant le défenseur de l'OM exclu pour un violent coup de pied contre un supporter avant la rencontre. Le joueur de 36 ans risque une lourde sanction pour un geste similaire en 95 dans le championnat anglais. L'attaquant de Manchester United, Eric Cantona, avait été suspendu 9 mois par la fédération anglaise.
Et pour finir, la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Pour leur retrouvaille 5 mois après la finale de la conférence Ouest, Golden State a encore laminé San Antonio 112-92, malgré une entrée en matière laborieuse. Dans l'autre rencontre de la soirée, Portland est venu à bout des Lakers 113-110.
Merci Nicolas.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. En République démocratique du Congo, la générale des carrières et des mines, ou GECAMINE, a pu générer plus d'un milliard de dollars à partir de transactions de cuivre et de cobalt entre 2011 et 2014. Mais les deux tiers de ces recettes, soit 750 millions de dollars, ne peuvent pas être retracés dans les comptes de l'entreprise étatique. Le Centre Carter a publié un rapport intitulé « Affaires d'État ». Idriss Fall a joint Elisabeth Cassens du Centre Carter à Bruxelles.
Dans ce rapport sur lequel nous avons travaillé pendant de nombreuses années, l'idée à la base c'était combien d'argent la GECAMINE récolte dans le secteur du cuivre au Congo. Il s'agit de pas mal d'argent, d'environ 262 millions de dollars par an en moyenne. Et donc nous avons essayé de comprendre ce qui se passe avec cet argent entre 2011 et 2014 sur les 1,1 milliard de dollars auxquels la GECAMINE a des droits. On n'arrive pas à retracer 750 millions de dollars.
Aucune trace. Est-ce que cet argent n'est pas allé, vous êtes sûr, dans les caisses de l'État congolais?
L'argent de la GECAMINE, de la société étatique, ne doit pas forcément aller au trésor public. On n'est pas dit que des taxes normales et des dividendes qui devraient aller au trésor public. C'est prévu ainsi dans la loi congolaise. La question qu'on s'est plutôt posée, c'est de savoir ce qui est fait de cet argent au lieu d'aller au trésor public. La rhétorique de la GECAMINE, c'est de dire que cet argent-là est réinvesti pour la relance de la production de la GECAMINE elle-même. Elle produisait beaucoup de cuivre dans les années 70-80. Et donc l'idée, selon elle, c'est de réinvestir cet argent qu'elle reçoit dans sa production. Alors on a mis cette théorie à l'épreuve et on constate que les résultats sont très décevants.
Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Parce que même sous Mobutu, c'était pareil. Hein.
C'est pas tout à fait pareil, dans le sens où sous Mobutu, l'entreprise étatique, donc elle produisait énormément de cuivre, elle avait un quasi-monopole de la production au Zaïre de l'époque, alors qu'à cette époque-ci, ce sont plutôt les investisseurs privés qui produisent, les investisseurs qui se trouvent en partenariat avec la GECAMINE. La production de la GECAMINE elle-même est devenue beaucoup plus réduite. Les recettes qu'elle récolte proviennent plutôt de ses partenariats que de sa propre production. Ses partenariats, qu'est-ce que ça génère et comment est-ce qu'elle alloue cet argent? C'est là que les questions se posent. Quand on entend que l'idée c'est de réinvestir dans la production mais que les résultats sont décevants, ça pousse évidemment à la question qu'est-ce qui se passe?
Beaucoup de questions, mais quelle réponse? Qu'est-ce que vous proposez comme solution?
Cette entreprise étatique aujourd'hui est très peu contrôlée. Donc il est très difficile de savoir ce qui se passe avec les contrats qu'elle signe, avec l'argent qu'elle récolte, avec l'argent qu'elle dépense, non seulement pour le public, mais même pour le Parlement congolais, même pour le gouvernement congolais. Très peu de membres du gouvernement, y compris le ministre des Mines, y compris même la primature, ont du mal à voir ce qui se passe dans cette entreprise. Il faudrait que les institutions congolaises, dans un premier temps, à ressaisir contrôle de ce qui se passe au sein de cette entreprise, surtout pour les plus grands contrats. Il y a eu certains contrats dont on sait qu'ils ont été signés 2016-2017, qui auraient pu générer jusqu'à 2 milliards de dollars rien que pour trois contrats. Qu'est-ce qu'il en est donc de pousser à la publication de ces contrats, à la publication des états financiers de cette entreprise, qui récolte pas mal d'argent et dont il est difficile de savoir comment les dépenses, c'est un regain de contrôle sur ce qui se passe au sein de cette entreprise, notamment au niveau financier.
Elisabeth Cassens du Centre Carter à Bruxelles.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Au Burkina, rendez-vous est pris pour demain. Une vingtaine d'organisations de la société civile comptent organiser une marche pour dénoncer les lenteurs judiciaires et l'impunité dans le pays. Bagassi Koura a joint Ali Sanou, le secrétaire général du mouvement burkinabé des droits humains.
Depuis maintenant 3 ans que l'insurrection populaire a eu lieu dans notre pays, plus de 2 ans après la tentative de putsch de l'ex-régiment de sécurité présidentielle, nous marchons, nous exigeons qu'il y ait la vérité et la justice pour les personnes qui sont tombées au cours de ces événements, mais aussi pour tous les carrefours impunis dans notre pays.
Et pourtant, il y a des procédures judiciaires qui sont en cours. Hein. À vos yeux, c'est trop lent ou c'est pas suffisant?
Vous savez, dans notre pays, pour les crimes politiques, il y a des procédures judiciaires qui datent de 30 ans. Pour nous, ce n'est pas le fait que les procédures judiciaires soient en cours qui constitue une garantie d'aboutissement de procédures en cours. Donc, nous, notre marche de demain vise justement à exiger que pour une fois, les procédures judiciaires n'excèdent pas des délais raisonnables, ne durent pas de façon indéfinie que les autorités politiques et judiciaires de notre pays puissent s'assumer, et ce d'autant plus que l'impunité est l'une des raisons quand même qui a prévalu à la chute du régime de Blaise Compaoré.
Alors, à qui donc la faute? Est-ce seulement le système judiciaire ou vous mettez en cause aussi le gouvernement?
Nous pensons que prioritairement, le gouvernement est responsable parce que au-delà des professions de foi qui nous sont balancées à longueur d'heure et de journée sur l'indépendance de la justice, nous constatons des cas concrets d'inhibition du pouvoir politique dans la conduite de certaines affaires judiciaires. Lorsque vous prenez la levée du mandat d'arrêt international lancé contre John Soro, tout le monde le sait très bien que c'est une question pour laquelle le pouvoir a préféré une résolution diplomatique, a mis la pression sur la justice pour qu'elle ait son mandat d'arrêt. Lorsque vous prenez également des officiers de l'armée qui devraient répondre de certains faits lors du coup d'État manqué de septembre 2015, qui sont nommés comme ambassadeurs hors du pays, il est clair pour nous que le pouvoir politique n'est plus qu'en œuvre pour que justement dans certains dossiers, il n'y ait pas la vérité et la justice. Aujourd'hui, l'ancien Premier ministre Yacouba Isaac Zida vit d'un exil doré au Canada. Pourtant, nous savons tous que ce monsieur a bénéficié d'une autorisation de sortie alors qu'il y avait des présomptions sur au moins des cas de détournement de deniers publics. On ne l'a pas empêché de sortir. Donc, nous, l'autorité politique, ne s'ingère de façon grossière dans certaines procédures judiciaires si qu'elles n'aboutissent pas. Mais cela ne dédonne pas quand même certains magistrats de l'appareil judiciaire qui, malheureusement, sont réticents en tout cas à assurer de façon pleine et entière leur indépendance.
Ali Sanou, secrétaire général du mouvement burkinabé des droits humains.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Sénégal, le 15 juillet dernier, lors de la finale de la Coupe de la Ligue de football, 8 personnes, après de violentes échauffourées, ayant entraîné l'affaissement d'un pan du mur du stade Demba Diop de Dakar, depuis les autorités ont mis l'enceinte sous scellé. Demba Diop était fonctionnel depuis 1963. Le point avec notre correspondant à Dakar, c'est Dina Abagueil.
Demba Diop est fonctionnel depuis 1963. À l'époque, il s'appelait Stade de l'Amitié. En 2017, il y a eu ce drame.
Le chroniqueur sportif Abdoulaye Diaw considère le stade Demba Diop comme une enceinte mythique. Cependant, il estime que sa fermeture est un mal nécessaire.
Demba Diop, c'est le berceau de l'organisation moderne de nos compétitions. Tous les Sénégalais se seraient retrouvés orphelins de Demba Diop si le stade était fermé. Mais il faut être réaliste. Fermé pourquoi? Pour cause de réhabilitation. Oui, il faudra retaper Demba Diop pour faire disparaître les images du drame du 15 juillet dernier.
Pour Hassan Diaye, promoteur de lutte avec frappe, cette longue indisponibilité du stade paralyse leurs activités.
C'est vrai que la fermeture a été nécessaire vu la gravité des faits, mais ça commence à durer et ça devient très difficile pour nous. Nous, les promoteurs, y perdons beaucoup car on a investi des dizaines de millions de francs CFA pour nous retrouver dans une posture très inconfortable. D'un côté, les amateurs s'impatientent et de l'autre, l'éditeur nous donne des ultimatums alors que nous n'y sommes pour rien. La fermeture du stade n'est pas de notre faute.
L'inquiétude des promoteurs est légitime et la tenue de ces grandes affiches nécessaires, selon le chroniqueur de lutte Ngagne Diagne.
Les promoteurs rencontrent des difficultés à cause des nombreux reports de combats et des contraintes que cela crée. Toutefois, la lutte n'est pas bloquée, même si les combats en suspens peuvent empêcher la tenue d'autres. Alors, il faut que ces combats aient lieu rapidement afin d'offrir des perspectives aux autres lutteurs, car il est important de souligner que les lutteurs qui doivent se faire face sont à des positions stratégiques dans l'arène. C'est un problème d'infrastructure et pour ces deux combats, ils peuvent se tenir au stade de Léopold Senghor.
Jacques Diop, conseiller technique au ministère des Sports, rassure les acteurs sportifs et annonce une solution pour la tenue des grandes affiches de la lutte avec frappe.
Nous avons déjà anticipé, parce que même dans le cadre de ce qu'on appelle par exemple l'arbitrage budgétaire. Nous avons inscrit dans la liste 2018 la réflexion de ce stade-là. D'ici mi-janvier ou plus tard, je pense que le stade pourrait accueillir d'autres, d'autres activités sportives ou culturelles. Je pense que pour le football, il n'y a pas de problème. Maintenant, la lutte, peut-être il y a deux ou trois grandes affiches. Ce sont des combats qui peuvent être abrités, à l'époque de la seconde, dans la mesure où le ministre des Sports, M. Bataraba, a même offert aux promoteurs la gratuité du stade. Maintenant, il ne reste qu'à respecter les cahiers de charges.
À Dakar, Sidna Abagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar, au Sénégal, 24h sur 24.
Jour J pour la sortie du tout dernier iPhone de chez Apple. L'iPhone 10 est mis sur les marchés donc aujourd'hui. Arzuma, quelles sont les nouveautés auxquelles il faut s'attendre ?
Premièrement, l'originalité de l'iPhone 10, l'une des plus grandes originalités, c'est son écran Super Retina de 5 pouces 8, qui recouvre totalement l'ensemble de la surface du téléphone. C'est le premier écran de chez iPhone à utiliser la technologie OLED, OLED qui veut dire Organic Light Emitting Display. Elle permet d'afficher un contraste de 1 million pour 1 contre 1400 précédemment. Il n'y a plus de bouton Home. Désormais, pour déverrouiller l'iPhone 10, il va falloir faire glisser son doigt de bas vers le haut, tout simplement. La technologie de reconnaissance faciale, c'est peut-être la grande innovation de l'iPhone 10 cette fois-ci. Le nouvel iPhone intègre une technologie de reconnaissance faciale baptisée Face ID qui permet de débloquer le téléphone en utilisant le visage. Tout simplement. L'autre nouveauté, c'est la puce ultra puissante A11 Bionic qu'Apple présente comme la puce la plus puissante et la plus intelligente jamais vue sur un smartphone, dotée d'un système neuronal capable d'effectuer jusqu'à 600 milliards d'opérations à la seconde. Et enfin, bien évidemment, la caméra, une caméra très puissante avec une stabilisation optique intégrée qui permet justement au zoom d'être plus puissant et plus stable.
Mais alors, avec toutes ces nouveautés, combien faut-il débourser pour avoir cet iPhone 10?
Alors, il va falloir débourser la coquette somme de $999, tout simplement pour la version de 64 gigabits ou environ $1200 pour celle de 256 gigabits.
Merci Arzuma.
Salut les amis, c'est Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique de Caraïbes. Soca, Zouk, Reggae, Salsa. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live. VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel. Sur VOA Afrique, Peace Africa!
ton titre Toi et moi que nous terminons cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. À la mise en onde, Lionel Gaïma. À la console, Sidrac Franklin. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24, un seul site internet, voafrique.com. Restez avec nous, tout de suite, le RM Show présenté par Roger Mountou. Très bonne soirée à l'écoute de nos programmes.